Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. A-t-on déjà connu mois de mai aussi chaud? La journée d'aujourd'hui devrait battre tous les records en France et il va falloir s'y habituer. On le sait, réchauffement climatique égale chaleur erratique. Les villes sont en train de s'y adapter, on va l'entendre. Reconstruire l'Ukraine, la guerre va durer, mais il faut déjà y penser en l'état. Cela coûterait entre 200 et 500 milliards d'euros. Les commissaires européens en parleront aujourd'hui à Bruxelles. Seront-ils débauchés pour faire partie du nouveau gouvernement? Les ministrables LR trouvent l'attente interminable. Pour elles, l'objectif c'est l'Assemblée nationale. Votre invité ce matin, Nicolas.
L'ancienne candidate à la présidentielle, députée RN du Pas-de-Calais, candidate à sa réélection, Marine Le Pen à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes, avec toutes vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000.
Combien de classes sans prof à la rentrée? Les concours ne font pas le plein cette année, ce qui inquiète déjà dans les collèges et les lycées. Dans ce journal aussi, 400 ovnis recensés par le Pentagone depuis 20 ans et Annette Messager, exposition à Villeurbanne, à Villeneuve-d'Ascq, toujours aussi troublante.
France Inter.
Des températures à mourir de chaud en Inde et au Pakistan, 46 degrés à New Delhi ce week-end, des tempêtes de sable ahurissantes au Moyen-Orient hier et en France, cette chaleur qui n'a rien de dangereux mais qui défie les moyennes de Météo France, plus de 30 degrés aujourd'hui, pas seulement dans le sud-est ou le sud-ouest mais aussi à Auxerre ou à Limoges, exceptionnel pour un mois de mai, explique Alix Roumaniac, président de Predict Service, la filiale risque de Météo France.
C'est un anticyclone qui remonte depuis le Portugal, l'Espagne, qui touche à une grosse partie de la France. C'est vraiment un phénomène exceptionnel, à la fois par sa précocité, durabilité, mais aussi étendue. Les records à plus de 30, 31, 32, 33 degrés. Et au global, depuis les 15 premiers jours de mai, on est déjà dans une anomalie de plus 2,7 degrés par rapport à la moyenne. Ça n'a jamais été pour le moment observé depuis l'existence des relevés de température.
Alix Roumaniac avec Mathilde Munoz, ces épisodes de chaleur. Le monde va devoir s'y habituer, la fréquence des canicules a doublé ces 40 dernières années et les villes s'adaptent, qui ont bien pris la mesure du phénomène, aggravé par le bitume, qu'il faut absolument verdir pour rendre la ville respirable. Exemple à Lyon, avec Christophe Vincent.
Au pied des tours de la Part-Dieu, la rue Garibaldi ressemble à une oasis. C'était une autoroute urbaine, l'ex-municipalité Colomb l'a recouverte et arborisée.
La verdure permet quand même un certain rafraîchissement, un ombrage, c'est agréable d'être piéton dans ce quartier, mais ceci dit, ce n'est pas suffisant. Le soleil qui cogne au mois de mai, comme en plein été, c'est un peu inquiétant déjà. Hein.
Fini les tours et les dalles en béton, les écologistes aux commandes végétalisent, la température peut baisser de 10 degrés, Nicolas Husson, adjoint à la biodiversité.
On plante très densément, 1600 arbres chaque année, ce qui est quand même assez conséquent puisqu'on arrive à peu près à 10 000 arbres à l'issue du mandat, ce qui représente pas loin de 20% des arbres de la ville.
À Villeurbanne, priorité aux 25 écoles de la ville, le maire socialiste Cédric Van Stevendel.
Ça vise à en fait débitumer les cours d'école, enlever le bitume, mettre des plantations à la place, proposer des arbres. Ça a un impact véritable sur la chaleur ressentie et puis sur la réverbération du sol.
La métropole teste une peinture anti-chaleur. Dans la fournaise lyonnaise, rien n'est négligé. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Il est 8h04, là-bas cette préoccupation en tout cas n'est plus d'actualité.
Et non, les villes en Ukraine sont à reconstruire. On parle de celles qui ont été détruites par les bombes russes, comme Borodyanka, à 40 km de Kiev, un mois d'occupation russe, 70% des bâtiments soufflés par les explosions. Reportage signé Valérie Krova et Laurent Maketti.
Sur les 15 000 habitants de Borodyanka, avant-guerre, 5 000 sont revenus, ceux dont les maisons ou les appartements n'ont pas trop souffert des combats. Pour les autres, il va falloir encore attendre. La ville n'est qu'une succession de façades noircies et d'immeubles béants. Les services municipaux ont élu domicile dans l'école secondaire dont le bâtiment a été épargné.
La mairie n'est pas reconstruite, elle a été bombardée et nous n'avons pas commencé les travaux de réparation.
Le maire, Georges Yerko, est fatigué. Sa priorité aujourd'hui est de reloger ses concitoyens.
Pour le moment, un groupe d'experts examine les bâtiments. Ils vont rendre leurs conclusions sur ce qu'on doit faire des maisons et des immeubles.
Sur la rue principale, une équipe de 40 volontaires, masque de chantier sur le visage, s'affaire dans un bâtiment bâtiment où règne une forte odeur de brûlé. C'était la poste de Borodianka. Dimitri travaille pour District One, une ONG ukrainienne dont la mission est de déblayer les gravats.
Notre objectif principal, c'est de reconstruire les infrastructures pour les gens qui reviennent afin qu'ils aient non seulement leur propre maison, mais aussi quelque chose pour vivre, exister dans ces villes et villages qu'ils occupent à nouveau.
Dans une autre pièce, une centaine de lettres a miraculeusement été préservée des flammes. Elles ont été envoyées le 22 février, deux jours avant la guerre. Nul ne sait si elles arriveront un jour à leur destinataire.
La reconstruction de l'Ukraine au menu de la réunion de la Commission européenne aujourd'hui. Les dégâts sont immenses et la guerre est loin d'être terminée. Mais on a déjà une idée de l'ampleur de la tâche, Bertrand Galichet.
Entre 200 et 500 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine, voilà l'estimation publiée le mois dernier par le CEPR, Centre de Recherche en Économie à Londres, qui s'appuie sur des comparaisons avec d'autres pays dévastés par la guerre au cours des décennies précédentes. Dans le détail et selon l'école d'économie de Kiev, les logements écrasés sous les bombes russes représenteraient déjà une valeur de 27 milliards d'euros. Les destructions de ponts, routes, gares, aéroports, centrales électriques et usines sont chiffrées à 95 milliards par le ministre ukrainien des infrastructures, s'y ajoutent les pertes de production dans l'agriculture et l'industrie et le déminage des terres et des bâtiments. La semaine dernière, le président de la Banque européenne d'investissement s'est prononcé en faveur d'un plan mondial pour reconstruire l'Ukraine. La confiscation des capitaux de la Banque centrale russe, gelée par les sanctions occidentales, est aussi une idée qui fait son chemin. Reste à trouver le moyen de flécher utilement cette aide à la reconstruction sans alimenter la corruption endémique en Ukraine.
Et ville martyre entre toute Mariupol où 250 combattants de l'usine Azovstal ont rendu les armes hier. Ils sont aux mains des Russes et c'est bien le début de la reddition des héros de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, un soldat russe comparaîtra à Kiev pour avoir tué un civil désarmé. Ce sera le premier procès pour crime de guerre en Ukraine. Alors que le conflit s'est invité à la soirée d'ouverture du festival de Cannes hier soir. Intervention de Volodymyr Zelensky qui s'adapte à tous les publics. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet face à la guerre. Je suis persuadé que le dictateur va perdre, a dit le président ukrainien. Ce soir, c'est un dissident russe qui montre à les marches de Cannes, le cinéaste Kirill Serebrennikov et son film en compétition, avec un vétéran du ciel américain aussi, c'est Tom Cruise, alias Maverick, et le nouveau Top Gun présenté hors compétition.
Il est 8h07, des trous dans les emplois du temps des collégiens et des lycéens l'an prochain.
C'est à redouter avec 1000 nouveaux profs de maths nécessaires à la rentrée, mais seulement 800 candidats admissibles en allemand, ils sont 80 alors qu'il y a plus de 200 postes à pourvoir. Des trous dans la raquette après les premiers résultats au concours du CAPES qui laissent présager une année difficile aux principaux et aux proviseurs, Sonia Princey.
Les chefs d'établissement finissent l'année scolaire essorés et la perspective de la rentrée leur donne déjà des sueurs froides. À la tête de leur principal syndicat, le SNPDEN, Bruno Bobkiewicz redoute encore des difficultés liées au manque de professeurs.
On a eu un problème toute l'année structurel de remplacement lié au Covid. On l'a bien vu dans le premier degré et dans le second degré. Évidemment qu'on ne peut être qu'inquiet quand on voit le faible nombre d'admissibles dans certaines matières au CAPES. On va se poser la question de la disponibilité et du vivier de contractuels, forcément, hein, qui dit... Absence de titulaires, dit contractuels. Le nombre de contractuels est déjà très élevé dans certaines matières et certaines académies. Donc on est forcément inquiet sur notre capacité à avoir un enseignant devant chaque élève au 1er septembre.
Pas question pour autant d'augmenter le nombre d'élèves par classe. De nombreux établissements sont déjà au maximum de leur capacité et les mathématiques ne seront pas la seule discipline touchée.
On va être en difficulté dans de nombreuses académies, malheureusement de nombreuses matières. Surtout évidemment et malheureusement les académies qui sont peu attractives.
Les académies d'Île-de-France en particulier. Le ministère dit avoir notamment des professeurs de mathématiques en surnombre, mais il a du mal à convaincre.
Et Jean-Michel Blanquer, encore ministre de l'Éducation, a promis de remettre 1h30 de maths par semaine à tous les élèves de première l'an prochain, ce qui est impossible, répondent les chefs d'établissement. Les délais sont trop courts pour informer les élèves et tout changer. Encore ministre de l'Intérieur pour quelques heures ou quelques jours, Gérald Darmanin hier s'est insurgé contre l'autorisation du port du burkini dans les piscines de Grenoble. Inacceptable provocation communautaire, dit-il. Le préfet de l'Isère et l'opposition municipale ont saisi la justice. Des ministres au milieu des cartons en attendant de savoir s'ils déménagent ou s'ils rentrent chez eux, pendant que d'autres espèrent faire leur entrée dans le gouvernement Borne, y compris chez les LR, scotchés depuis plusieurs jours à leur téléphone, Anne Souhaitemont.
Il faut que ça se termine, ça devient invivable. Pour ce député LR qui ne dirait pas non à un Marocain ministériel, le temps devient long, beaucoup trop long. Car voilà plusieurs semaines que les canaux de communication sont ouverts. Travaillé au corps par Bruno Le Maire, qu'il connaît de ses années UMP puis LR, le parlementaire s'est dit intéressé par une entrée au gouvernement. Lorsqu'il apprend lundi que c'est une femme de gauche qui ira à Matignon, il s'en lèche les babines. Pour rééquilibrer, il faudra des ministres de droite, sourit-il. Même impatience dans le bureau de ce maire LR qui appelle à saisir la main tendue par Emmanuel Macron. Lui a été sollicité par deux autres ministres ex-LR, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, avant d'être jaugé pour apparaître dans une liste de ministrables transmise au président. Mais Emmanuel Macron écoutera-t-il vraiment ses ex-poids lourds LR passés à son service? N'a-t-il pas montré, en nommant Elisabeth Borne, qu'il cherchait plutôt à parler à la gauche? Depuis lundi, c'est silence radio, la droite macro-compatible attend le verdict final, façon méthode Coué. Depuis 2017, c'est à la droite que le président a donné des gages.
Anne Souhaitemont est parfois en l'embarras du choix pour trouver du boulot. Avec un chômage à 7,3%, le marché du travail se tend dans certains secteurs, si bien que des employeurs ont hier inversé leur rôle avec des demandeurs d'emploi dans un speed dating à l'envers où ce sont eux qui se présentaient aux candidats. C'était au Mans, reportage France Bleu Maine, signé Solène Gardet.
Dans la salle, les chercheurs d'emploi attendent les recruteurs, répartis par compétences.
On inverse les rôles.
Eric cherche un travail depuis plusieurs mois et il s'est rarement senti aussi à l'aise.
Quand vous êtes à un entretien d'embauche, derrière une table, assis avec plusieurs personnes en face de vous, vous emmenez pas trop large, on n'est pas dans notre meilleur élément. Là, ce matin, c'est très convivial, dans un autre état d'esprit.
Parmi les recruteurs, Sandra Crescenzi, elle a du mal à trouver des candidats pour son entreprise de maroquinerie et se résout à faire le premier pas.
Je pense que le marché de l'emploi est tellement tendu que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Il faut absolument qu'on se rende sexy auprès des personnes pour qu'ils viennent travailler chez nous, en fait.
Quitte à être un peu plus flexible sur le choix des candidats.
Avant, on était plus dans la diffusion et on attendait un petit peu que les CV arrivent pour faire une sélection. Et là, aujourd'hui, il faut analyser réellement le poste pour pouvoir faire en sorte qu'un candidat qui ne remplit pas à 100% les critères puisse rentrer dans on va dire 70 ou 80% de ce que l'on attend.
Un concept qu'on devrait voir de plus en plus souvent. En Sarthe, Pôle emploi prévoit déjà un deuxième recrutement à verser en juin prochain.
Solène Gardet, faire revenir les touristes après 2 ans de Covid. Le Maroc en a besoin et annonce la fin du test PCR obligatoire pour entrer sur son territoire, au contraire du Japon qui ne rouvrira pas ses frontières aux étrangers cet été. Eux n'ont pas de visa, ils n'ont pas été invités, personne ne les connaît. Les ovnis dont il a été question au Congrès américain hier avec cette première audition publique d'un responsable du Pentagone sur les phénomènes inexpliqués rencontrés dans le ciel. Loïc Loury, ils se sont multipliés ces dernières années.
Ces 20 dernières années, un nombre croissant d'objets non autorisés et surtout non identifiés ont été observés dans le ciel. C'est ce qu'affirmait devant une commission du Congrès Scott Bray, un responsable du Pentagone, exemple à l'appui. Vous voyez ici cet objet sphérique qui semble réfléchir la lumière et qui passe rapidement à côté de notre avion. Je n'ai pas d'explication quant à la nature spécifique de cet objet. Au total, 400 rencontres ont été plus ou moins documentés, notamment par des pilotes de la Navy, un chiffre bien supérieur auprès de 150 événements déclassifiés l'été dernier. Dans un rapport, les renseignements s'étonnaient alors de la capacité de certains de ces objets volants à accélérer ou à changer brusquement de direction, comme ici en 2015 au-dessus de la Floride. Mon Dieu, ça vole contre le vent, un vent d'ouest à 220 km/h. Regarde ce truc, mec, c'est entré en rotation. Rien, selon le renseignement, ne permet toutefois de dire qu'il s'agit là de véhicules extraterrestres, mais impossible également de l'exclure complètement. Les États-Unis cherchent avant tout à savoir s'ils ont affaire à une menace bien de chez nous. New York, Loïc Loury, France Inter.
Enfin, dans la série OVNI, cette exposition au Musée d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, Annette Messager, l'immense plasticienne française, dans une rétrospective de ses œuvres. L'expo s'appelle « Comme si ». Isabelle Pasquier l'a visitée avec l'artiste. Attention, attachez vos ceintures.
Comme si, comme si, comme, 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 comme. À l'entrée de l'exposition, la voix d'Annette Messager, comme si l'artiste qu'elle est continue de narguer la vie et la mort.
Les têtes à tête, là, qui sont des vanités, qui sont des têtes de mort, c'est un peu un exorcisme contre la mort. Donc ces têtes de mort, je les rends grotesques, amusantes, sympathiques, déplaisantes. C'est comédie, tragédie.
Cette tension entre Eros et Thanatos traverse toute l'œuvre d'Annette Messager qui conjure la mort avec son humour grinçant. Et à bientôt 80 ans, Annette Messager, toujours aussi féministe et provocatrice, ose tapisser une pièce avec des dessins d'utérus et de vagin colorés comme des papillons.
J'avais remarqué qu'il y a beaucoup de phallus ailés, chez les Grecs particulièrement. Je me suis dit, mais il n'y a pas de vagin ailé. Eh bien, on va faire des vagins ailés.
À la fin de l'exposition, une installation choc, Paris complètement calciné. Seuls restent des peluches et une petite souris qui fait s'écrouler la tour Eiffel. Titre de l'œuvre, La revanche des animaux.
Comme si. Ben voilà, comme si d'Annette Messager, d'Annette Messager, aux Lames de Villeneuve-d'Ascq. C'est à voir jusqu'au 21 août.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et c'est une matinée estivale, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, vous avez pu voir de très beaux levées de soleil pratiquement sur tout le pays, excepté du côté du Languedoc-Roussillon et de la Côte d'Azur, où des entrées maritimes couvrent le ciel. Et puis en Bretagne, on voit arriver aussi de beaux cumulus, et le ciel devient laiteux sur les côtes atlantiques, annonciateur d'une dégradation pour la journée, dans une ambiance actuellement contrastée entre les 6 degrés à l'intérieur du Morbihan et les 24 dans l'Aude. Il fait 10 sur les Ardennes, 13 à Ajaccio, 14 à Clermont-Ferrand, 17 à Paris comme à Biarritz, mais dès le milieu de la matinée, il va faire de plus en plus chaud.
Et une dégradation orageuse arrivera par l'ouest cet après-midi.
Et oui, et la première salve orageuse va se former de l'est de la Bretagne au Cotentin, puis en soirée sur la Normandie et l'ouest parisien, puis dans la nuit sur les Hauts-de-France, avec de la grêle et un renforcement du vent. Et la deuxième salve orageuse va se former du Poitou au Limousin, en descendant sur l'Aquitaine à l'ouest des Pyrénées. Avec l'activité diurne, on aura aussi des averses et d'autres orages qui éclateront sur le relief alpin. Et cet après-midi, on va donc battre les records de chaleur pour un mois de mai. On atteindra les 34, voire 35 dans la vallée du Rhône, à la Provence, au Gard, mais aussi de la plaine toulousaine, au Bordelais. On attend 31 à Paris comme à Strasbourg, 26 au Havre, 27 à Ajaccio, 24 à Cannes et 20 à Cherbourg, une normale de saison.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h17, géopolitique.